Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Alors, chaque week-end, vous en avez pris l'habitude. On se projette vers ce rendez-vous, les Jeux paralympiques de Paris 2024. Ça démarrera le 28 août, la cérémonie d'ouverture. Vous n'en manquerez rien, évidemment, sur l'antenne de RMC, qui consacrera d'ailleurs une plateforme digitale à l'image de ce qu'on vous a proposé pour suivre les performances de nos athlètes tricolores lors des Jeux olympiques. Vous pourrez suivre toute la journée et ne rien manquer des performances de nos athlètes paralympiques dans ces Jeux de Paris 2024. Pour être tout à fait transparent avec nous, on a un petit problème de connexion avec notre invité qu'on devait retrouver d'ici quelques secondes. Et ben voilà, le temps d'en parler. Il est là. On est ravis d'accueillir Rémi Boulay. Bonjour.
Bonjour à vous, la team RMC.
Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Parakayakiste français, champion d'Europe 2024 sur 200 mètres, vice-champion du monde 2024 et 2023 sur cette distance. Cinquième des Jeux de Rio, médaillé de bronze à Tokyo il y a 3 ans. Vous concourez donc pour vos 3e Jeux paralympiques à partir du 28 août prochain à Paris. Rémi, objectif médaille d'or cette fois-ci ?
Objectif médaille d'or, forcément on travaille pour la médaille. Maintenant je sais que ça va être très dur avec le Hongrois, mais en tout cas bien sûr que c'est mon objectif, et puis après on verra ce qui se passe le jour de la course.
Oui, évidemment, dans une discipline, Rémi, le 200 mètres qu'on peut qualifier à l'image de ce qu'on dit du 100 mètres en athlétisme, est-ce que c'est la distance reine dans le sprint kayak? On rappelle qu'il y a trois distances, 200 mètres, 500 mètres et 1000 mètres.
Oui, alors c'était la distance reine jusque Tokyo, parce que le 200 mètres a été enlevé au niveau olympique pour le kayak cross. Après, nous, par rapport au chrono, mon objectif, ça serait à Vercors-Marne d'aller chercher un 45 secondes. Je sais qu'avec un 45 secondes, je suis quasi sûr d'être sur le podium. Et donc, ça équivaut à peu près en athlétisme aux 400, à peu près aux 400 mètres, ouais, en athlète.
Donc on rappelle que tout le monde est sur la ligne de départ sur l'eau, et que voilà, c'est un sprint à la force des bras. Ça nécessite beaucoup de puissance, de force, mais quoi d'autre également comme qualité?
Bien sûr. Alors on est 9 bateaux sur les championnats du monde, etc. Aux Jeux paralympiques, on sera que 8 en finale. Donc on est 8 en finale, qualifiés aux Jeux, là on sera 11, donc il y en aura 3 qui vont sortir, qui ne seront pas en finale. Donc nous on vient mettre la pointe avant de notre bateau dans ce qu'on appelle un sabot. Au ready, set, go, au go, le sabot tombe dans l'eau, ça fait en une microseconde, hein, c'est sur des vérins. Le sabot tombe dans l'eau, donc là après c'est comme à la Usain Bolt, hein, c'est le premier qui passe la ligne qui a gagné. L'objectif pour nous, c'est d'aller chercher une vitesse max très rapidement. Donc, on passe de 0 km/h. Ma vitesse max, si j'arrive à l'atteindre, ça serait un 18 km/h. Aujourd'hui, je tourne à 17,8. Là, j'aimerais aller chercher à Paris un 18 km/h. On va chercher notre vitesse max à environ 50 mètres. Et après, c'est tenir cette vitesse maximum jusque 120, 130 mètres. Et après, de toute façon, on a une décélération. C'est pas possible. Même les Olympiques, on ne peut pas garder notre vitesse max jusqu'à la fin. C'est pas possible. Donc, en fait, on va chercher un pic, on monte très vite en vitesse et après ça redescend. Et l'objectif, c'est que ça redescende le moins possible. Moi, mon objectif de course, c'est que j'arrive à passer la ligne d'arrivée à au-dessus de 15 km/h. Et si j'arrive à vraiment produire cet effort-là à 18 et à 15 km/h, bah, normalement, le chrono sera plutôt bon, quoi.
Rémi Boulay, parakayakiste français, champion d'Europe 2024, vice-champion du monde 2024 et 2023 sur 200 mètres et médaillé de bronze à Tokyo, est notre invité dans En route pour Paris 2024. Rémi, bah, tout simplement, tes adversaires les plus redoutables à Paris, qui seront-ils ?
Eh ben alors, mes adversaires les plus redoutables, ça sera le Hongrois, forcément, champion paralympique en titre. J'ai le Brésilien qui a fait deuxième à Tokyo, que j'ai réussi à battre l'année dernière. Et après, il y a l'Italien qui est revenu de blessure. Il a fait une coupure de 1 an. Il est quand même 2 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe. C'était le gros adversaire avant le Hongrois qui arrive dans notre discipline. Et là, il y a un Iranien aussi. Il y a un Iranien qui était dans la catégorie au-dessus, qui était KL2. et qu'ils ont reclassifié et qui est arrivé dans ma catégorie. Donc on est un peu surpris. Bon, après, c'est les aléas du paralympisme. Mais donc voilà. Donc, et après, il y a Suba qui avait fait deuxième aux Jeux de Rio. Mais ça fait deux ans que je le bats sur toutes les compétitions. Donc, mais vraiment, on va dire, c'est ces quatre adversaires les principaux qui vont vraiment avec qui je vais devoir me découdre, on va dire, en mode guerre sur la ligne de départ.
Rémi, tu es paraplégique. Tu as déclaré que le handicap n'est pas la fin, mais le commencement d'une autre vie. Est-ce que pour celles et ceux de nos auditrices et de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ton parcours, tu pourrais rappeler le terrible accident dont tu as été victime, je crois que c'était en 2014.
C'est ça, c'est en 2014, donc pour la petite histoire, c'est le 4 septembre 2014, et si tout va bien, je serai en finale des Jeux le 7 septembre 2014, donc ça fera 10 ans et 3 jours que je suis devenu paraplégique. Alors moi, mon histoire, elle est que j'étais chuteur opérationnel au sein de l'armée française, au CPA 20, les commandos parachutistes de l'air numéro 20, et j'ai mon parachute qui ne s'est pas ouvert sur un saut d'entraînement opérationnel, donc le 4 septembre 2014, et ma procédure de secours ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû, ce qui fait que, pour schématiser pour les auditeurs, je me suis retrouvé sous deux voiles. Donc j'ai fait à peu près à 800 mètres de hauteur, je me suis retrouvé en torche, les deux voiles emmêlées, et j'ai fait une descente de un peu plus de 50 km/h. Donc moi, j'ai eu la chance de survivre, hein, normalement. D'un accident comme ça, on meurt, hein, quand on prend le sol à 50 km/h. J'ai une amie, Blandine Pérou, qui est décédée d'un accident similaire au mien. Moi, j'ai eu la chance de survivre. Je me suis vraiment mis droit pour impacter le sol droit. Et c'est l'onde de choc et ma jambe gauche qui a fait que ça a fait fracturer 4 vertèbres. Et après, je me suis retrouvé donc paraplégique dès cet instant. Donc moi, j'ai pas perdu connaissance, hein. Tout de suite, j'ai vu mes collègues arriver sur moi, j'ai pu discuter malgré la douleur. Et puis après, j'ai été transféré sur l'hôpital de Gap, puis l'hôpital de Grenoble, quand ils ont vu que c'était trop gros. Et après, j'ai fait environ un an de rééducation à l'hôpital militaire de Percy, et pour réapprendre une nouvelle vie. Alors forcément, comme je dis, moi, c'est ma vie d'avant, je préférais ma vie d'avant. Maintenant, j'ai envie de dire aux auditeurs qu'on a tous des soucis dans la vie. Il y a des gens, vous savez, à mon âge, qui ont des cancers et puis que c'est incurable ou autre. Donc, je suis vraiment dans ce leitmotiv à me dire, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, faut profiter de chaque instant et toujours aller de l'avant, parce que de toute façon, vous comme moi, on n'a qu'une vie, et à la fin du bal, de toute façon, on finit tous pareil. Donc, donc autant profiter de chaque instant et se dire, la vie, elle mérite d'être vécue, et puis de s'éclater au maximum.
Alors tu l'as rappelé, hein, tu es à l'époque parachutiste dans les commandos de l'armée de l'air, donc déjà très sportif, et tu as l'habitude de pratiquer le sport à haute intensité, à haut niveau. Est-ce que malgré tout, c'est la perspective de, je sais pas, l'objectif de haute performance du sport qui t'a permis de surmonter quand même ce drame, de te projeter justement dans cette autre vie dont tu parles?
Bien sûr, forcément, moi, ma passion, j'avais trois passions, c'était l'armée, le parachutisme et la course à pied. Donc du jour au lendemain, on perd tout ce qui fait ce qui nous incarne, c'est-à-dire je perds l'armée, je perds le parachutisme et je perds la course à pied. Étant sans diplôme scolaire et m'étant engagé à l'armée de l'air à l'âge de 17 ans, après mon brevet des collèges, je me suis dit... Il y a deux choix. Il y a soit on se morfond sur son sort, et comme je disais tout à l'heure, et puis à la limite on se tire une balle et on en finit, ou soit on prend l'autre alternative et on se dit Rémi, la vie elle est dure, pour tout le monde, et puis on va se relever de tout ça. Et forcément que le sport de haut niveau m'a aidé. Donc moi je me suis dit, on est en 2014, enfin début 2015, je me suis dit il y a les Jeux Paralympiques en 2016 à Rio. Pourquoi pas tenter l'aventure? Maintenant, il fallait que je choisisse un sport. Je voulais un sport individuel pour pas compter, vous savez, sur les autres. Et puis, un sport collectif, il faut se faire accepter dans une équipe. Et donc là, j'ai regardé, j'ai feuilleté et il s'avérait que le kayak était pour la première fois aux Jeux Paralympiques à Rio 2016. Et j'avais pratiqué le kayak pendant 6 ans, à un plutôt bon niveau. Donc, je me suis dit, les planètes s'alignent et on fonce. Mais bien sûr que le sport m'a vraiment aidé à surtout ne pas me morfondre sur mon sort, en fait. Et toujours se dire, de toute façon, on a un objectif et on avance et on va chercher nos objectifs. Et puis son état aujourd'hui, le handicap, le fauteuil roulant, on l'accepte et puis on essaie de faire autre chose et de vivre avec ça. Bien sûr.
J'imagine, Rémi, que tu as suivi les Jeux Olympiques, les performances de tes collègues, des équipes de France Olympiques. Vous êtes en contact, vous vous entraînez régulièrement ensemble à Vers-sur-Marne, je crois.
Oui, bien sûr. Nous, justement, on est l'un des seuls sports. Alors, il y en a d'autres. Hein, il y a le triathlon et puis l'aviron sur quelques compétitions. Mmh. Et nous, il faut savoir que le kayak sprint et paracanoë, quand on fait les championnats du monde, championnats d'Europe ou Coupe du monde, on est en même temps. C'est-à-dire que moi, je peux faire mon 200 mètres paralympique et juste après, c'est la course de 100 mètres olympique femme des canoës dames, par exemple. Donc vraiment, on est en même temps. Quand on part en déplacement en championnat du monde, on est intégré avec l'équipe olympique de sprint. Donc vraiment, on se connaît tous. En stage, on est à Temple-sur-Lot en même temps, Guadeloupe, etc. Donc oui, on se connaît tous. J'ai suivi les résultats. Bon, les résultats n'ont pas été ceux qu'on aurait pu attendre. Voilà, c'est le facteur du sport. Maintenant, il y a eu des meilleurs résultats en slalom, en sprint. Il faut savoir que c'est un sport vraiment, vraiment très physique et on n'avait pas l'avantage. Il faut savoir que nous, à Vers-sur-Marne, l'avantage du bassin qu'ont pu avoir les slalomeurs, connaître vraiment les vagues, etc., ça les a pas mal avantagés par rapport à nous. Nous, ça reste un lac, c'est un lac. Hein. C'est pour tout le monde pareil. On n'a pas l'avantage du site. Maintenant, ça a été une mauvaise année, un mauvais jeu paralympique, enfin un jeu olympique pour l'équipe sprint. Maintenant, il va falloir remonter la pente pour 2028, pour LA. Et puis j'espère qu'ils vont aller chercher de belles médailles.
Pour LA, évidemment, Los Angeles, où auront lieu les prochains Jeux Olympiques 2028. D'ici là, Rémi, on va vous suivre. Tous les parakayakistes, paraséistes de cette équipe de France paralympique, ces Jeux paralympiques qui démarrent le 28 août prochain et qu'on pourra suivre sur RMC. On va suivre vos performances. 5e à Rio, 3e à Tokyo, sur la première marche du podium. C'est tout ce qu'on te souhaite, Rémi, à Paris pour ces Jeux paralympiques. Merci beaucoup d'être passé par RMC. Et très bonne chance pour ces Jeux paralympiques.
Merci à vous, la team RMC. Et puis merci de continuer à médiatiser justement le paralympisme. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.
On sera là, évidemment. C'est la promesse de RMC. Et vous savez que vous pouvez compter sur notre antenne. À bientôt. On poursuit, nous, notre magazine paralympique, ou devrais-je dire olympique-paralympique, puisqu'on va s'offrir une petite transition. On est ravis d'accueillir un médaillé d'or français lors des derniers Jeux Olympiques. Bonjour, Nicolas Gestin.
Bonjour.
Champion olympique de slalom canoë, faut-il le rappeler. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir avec vous sur les jours qui ont suivi ce titre olympique et de se projeter sur votre fin de saison, on va offrir à nos auditrices, nos auditeurs un petit plaisir, revivre les derniers instants de votre passage victorieux dans le bassin de Vers-sur-Marne. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas à l'écoute de RMC le 29 juillet dernier, voici ce que vous avez raté.
Le sprint final, là, avec une dernière porte rouge à négocier, un dernier stop sur le côté gauche. Il faut aller bien le chercher et réussir sa figure pour aller chercher cette médaille olympique. Allez, Nico, 85 secondes, 9 pour l'instant. Il est sur les bases. Il va aller chercher la médaille d'or. Oh oui, il va la faire. Oh oui, il est largement en avance, Nicolas Gestin. 91, 36, 5 secondes, 48 d'avance. Il est champion olympique. Oui. Médaille d'or pour Nicolas Gestin. À 24 ans, il entre dans la dynastie dorée après Tony Estanguet en 2000, 2004 et 2012. Après Denis Gargaud, Chanu en 2016, Nicolas Gestin est désormais champion olympique. Il est le seul à être champion olympique à domicile. Et oui, il est unique pour cela, Nicolas Gestin. Il est allé chercher ce titre. C'est énorme.
C'est énorme, comme les commentaires de Kevin Morand, qui était donc à l'antenne de RMC, pour ce titre de Nicolas Gestin, notre médaillé d'or, qui a passé une tête dans l'Intégral Sport. Nicolas, est-ce que tu as revu ta course depuis ce titre, ou réécouté peut-être le direct de cette course?
J'ai eu l'occasion de revoir ma course et carrément j'ai pas eu beaucoup de temps pour la revoir, mais je l'ai regardée 2-3 fois. J'ai même pu voir le passage aussi des étrangers pour comprendre comment faisait-il que j'avais autant d'écart à l'arrivée. Mais non, ça a été sympa de pouvoir la revoir parce que je pense qu'on oublie vite aussi, et de revoir 2-3 passages un peu tendus, on se remémore qu'on était quand même sur un film malgré cette belle avance à la fin.
Et justement, à l'épreuve des images, ça correspond aux sensations qu'on a dans le bateau sur le moment, où il y a des choses que tu vois et qui changent un petit peu la perception que tu as pu avoir avec l'adrénaline sur le moment.
c'est relativement similaire, je pense. Par contre, ça me rappelle deux, trois endroits où justement c'était un peu des passages où ça s'est pas passé comme prévu. Et notamment sur les toutes premières portes, je me rappelle de rater un ou deux appuis avant la première porte en remontée, que la porte 2, la pointe avant, passe très très proche et que ça aurait pu la balayer et presque m'emmener à la faute. Donc c'est plutôt que ça me remémore. Après, sur le moment, j'étais pas du tout en train de juger, disons, ce que j'avais fait. J'étais vraiment porté sur à chaque fois la porte suivante. Et c'était. Du coup, on est presque un peu transformé, on est un peu en transe et je pense qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Juste, ça me remémore un peu des passages où je me suis dit, là, c'est chaud, quoi.
Nicolas, je te prie d'excuser cette question un petit peu bateau, mais c'est le plus grand moment de ta jeune carrière. On rappelle que tu as 23 ans.
Ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que même pour un sportif français, de concourir les Jeux à la maison, ce sera forcément une course mémorable pour tous, hein, même ceux qui n'ont pas ramené de médaille. Mais de ramener l'or à la maison sur ma première Olympiade, devant tout ce public, devant tous mes proches, forcément que cette médaille, elle va garder un goût très spécial. Et je pense que je ne suis pas trop prêt de l'oublier ce 29 juillet.
Nicolas, on te remercie d'autant plus de nous consacrer un peu de temps car aujourd'hui tu fais ton retour dans les bassins. C'est chez toi à Quimperlé en Bretagne où tu es licencié depuis l'âge de 7 ans, je crois. Je me suis laissé dire que quelques célébrations sont prévues en ton honneur. Raconte-nous un petit peu le programme et l'ambiance.
C'est ça, là. Bah, dès que je vous quitte, il y a déjà eu un rassemblement de supporters à 13h, je crois. On a monté un peu tout l'événement ce matin, tous ensemble. Et à 15h, je défile sur notre belle rivière de l'Élé et de la Laïta pour passer devant le quai Briseux qui a été coupé à la circulation, tout simplement. Et donc, ce sera l'occasion de revoir un peu tous les Quimperlois. Et ensuite, on organise un événement à la prairie Saint-Nicolas, à côté du club de kayak, où on va revisionner les courses, boire un verre ensemble, faire quelques photos pour ceux qui veulent, et puis voilà, tout simplement passer un moment ensemble tous les Quimperlois. Donc on a une après-midi bien chargée, je vais pas tarder à aller sur l'eau.
Un accueil de ministre pour toi, Nicolas Gestin, champion olympique, je le rappelle, de slalom canoë. Je te garde quelques secondes encore à peine pour savoir si ce titre, alors à Quimperlé chez toi, tu es une figure, les gens te connaissent, mais est-ce que malgré tout, ce titre a changé quelque chose en termes de notoriété, tout simplement? Est-ce que tu peux encore aller faire tes courses tranquillement, ou est-ce que les gens t'arrêtent, te reconnaissent beaucoup plus qu'avant les Jeux?
On est encore un peu sur l'élan des Jeux Olympiques, donc c'est sûr que les gens reconnaissent vachement et puis se sont identifiés à ma course, parce que tous les Quimperlois ont vachement suivi aussi l'événement. Mais je pense que voilà, ça va redescendre aussi avec le sport qui est on vit un peu dans l'anonymat au canoë-kayak, et c'est peut-être pas plus mal. Je pense que je serais peut-être embêté encore 2-3 fois les prochaines semaines, mais je m'en fais pas sur le fait que ça va redescendre. Et puis à Quimperlé, tous les gens étaient très bienveillants et justement heureux de pouvoir simplement partager. Ils me connaissaient aussi avant, donc il n'y a pas de... Voilà, juste de la bienveillance, et j'espère que ce sera le mot de cet après-midi, bienveillance et festivité.
Dernière question, Nicolas, on était il y a quelques instants avec Rémi Boulet qui s'apprête à disputer ses 3e Jeux Paralympiques à Paris. Est-ce que tu vas suivre les performances des parakayakistes et paraséistes à Paris à partir du 28 août prochain?
Carrément, ouais. J'ai hâte de découvrir les Jeux Paras. Je pense que ce sera aussi l'occasion de découvrir des nouveaux sites, peut-être d'aller voir des épreuves que j'ai pas pu aller voir pendant les Jeux Olympiques. Donc je vais suivre ça. On m'a même proposé d'être porteur de la flamme paralympique, qui est un relais de 4 jours. Donc ça doit se caler en fonction un peu de mon emploi du temps. J'ai aussi 2 Coupes du Monde au mois de septembre. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais suivre toute l'équipe de canoë kayak avec... On a des belles chances de médailles, donc en tout cas, on sera derrière eux et puis on suivra ça, même si on n'est jamais en Coupe du Monde, et un peu de loin.
Et nous aussi, évidemment, on sera derrière eux sur RMC. Vous ne manquerez pas une miette de ces Jeux Paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup, Nicolas Gestin.
Merci.
Et bonne journée de célébration, bonne fête à toi du côté de Quimperlé pour ces hommages bien mérités dans ton club, où je rappelle, tu es licencié depuis l'âge de 7 ans. Merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps et à bientôt sur l'antenne de RMC. Mais pour l'instant, dans l'Intégra Sport, on poursuit notre projection vers les Jeux Paralympiques en route pour Paris 2024. C'est votre rendez-vous chaque week-end à 11 jours ce samedi de la cérémonie d'ouverture. On s'intéresse maintenant aux épreuves de para-tennis de table. Et pour en parler, on est ravis d'accueillir une légende de cette discipline en France, consultant au sein de notre Dream Team RMC. Bonjour Christophe Durand.
Bonjour à tous.
Christophe, septuple médaillé paralympique, hein, tu as par la suite été entraîneur de l'équipe de France. Merci de passer par l'Intégral Sport. Afin d'évoquer l'une des disciplines les plus prolifiques, hein, pour la délégation tricolore aux Jeux paralympiques, 11 des 54 médailles françaises à Tokyo. C'était 6 de plus qu'en 2016 à Rio. Combien, Christophe, peut-on en espérer cette année pour nos parapongistes tricolores?
J'ai du mal à projeter parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, il y a une nouvelle formule de compétition. La compétition par équipe a été interdite avec des compétitions de double et de double mixte, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de compétitions par le passé.
On manque de référence, savoir, hein.
Voilà, donc il y a eu juste les championnats du monde il y a 2 ans, en 2022, mais les Chinois n'étaient pas là. Donc quand on sait que la Chine, ouais, est quand même un pays qui domine le tennis de table, donc je pense qu'on peut viser à minima le même nombre de médailles, et après peut-être des surprises. La délégation compte un tiers de nouveaux paralympiens, donc ça va être la première expérience des Jeux, et dont certains sont vraiment des fers de lance parce qu'ils sont dans le top 3 ou 4 de leur catégorie. Donc je dirais, si on fait pareil, après ce qu'il faut peut-être qu'on améliore, c'est le nombre de médailles d'or, parce que je crois qu'à Tokyo, il y en avait 2. Peut-être d'en faire 3 ou 4, ce serait vraiment une très bonne chose.
Alors tu as déjà répondu à ce qui était ma question suivante. En paratennis de table également, la Chine est loin devant les autres nations, ils sont imbattables.
Alors c'est un petit peu moins vrai que chez... Ouais, c'est moins dominateur, notamment de ce qu'on a vu par exemple avec les frères Lebrun. Chez les valides, à peu près, ils sont 5 ou 6, voire 7 dans le top 10. Nous, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a différentes catégories et il y a des catégories où ils sont un petit peu moins bons. Alors, des catégories parce que des fois, c'est un peu plus technique et ils n'ont pas voulu développer ça. Mais dans la globalité, c'est la délégation la plus importante. Nous, on est à 21 sportifs. Eux, ils doivent être à 26 ou 27. Donc, forcément, mais ils sont un petit peu moins dominateurs. Et puis, ils ont aussi quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui est moins connu dans le handisport. Mais ils ont aussi eu la fuite de certains joueurs qui sont partis dans d'autres pays, changer de nationalité. Et ça fait des meilleurs qui sont plus là et qui concourent pour d'autres pays.
Christophe Durand, septuple médaillé paralympique en para tennis de table et désormais consultant de la Dream Team RMC. Tu vas commenter pour notre antenne les épreuves de para tennis de table dans ces Jeux de Paris 2024. Ce sera en compagnie de Léna Marjac. Christophe, est-ce que tu peux, pour nos auditrices, nos auditeurs, faire un petit peu de pédagogie et expliquer comment se répartissent les joueuses et les joueurs? Il y a différentes classes qui correspondent à des catégories. À quoi correspondent?
Oui, alors, un petit peu comme au judo avec le poids, nous, en tennis de table, on a 10 catégories, 5 catégories pour les fauteuils et 5 catégories pour les debout. Alors, certains diront que c'est beaucoup, mais dans un sport où le déplacement a une importance primordiale, c'est un peu logique. Et du coup, pour essayer de faire simple, dans les 5 catégories fauteuils, vous avez 2 catégories de tétraplégiques. Et après, donc les tétraplégiques, c'est ceux qui sont touchés aux 4 membres, et dont certains sont obligés de s'attacher la main pour tenir leur raquette. Et après, vous avez 3 catégories de paraplégiques. Donc, soit vous avez des abdos, soit vous n'en avez pas dans les jambes, soit vous n'en avez pas. Alors, ce qui a une grosse incidence quand on joue en fauteuil. Toutes les premières catégories sont en fauteuil, notamment pour la bascule avant-arrière, gauche-droite. Et après, chez les debout, pour faire simple, ça va de 6 à 10 et vous avez 6, vous êtes touché aux 4 membres, 7, vous êtes touché à 3 membres et puis et ainsi de suite. Et pour la catégorie 10, où en général vous êtes touché que aux membres, soit le membre bras qui tient pas la raquette et du coup ça vous gêne pas beaucoup, même si ça gêne pour l'équilibre, ou alors vous êtes touché très faiblement à une des deux chevilles. Et après, il faut aussi ajouter, parce que c'est aussi une fierté de notre sport, parce que ce n'est pas le cas de tous les sports paralympiques. Nous, on a intégré la catégorie qui s'appelle 11 chez nous, et donc c'est les déficients mentaux. Et ils sont avec nous depuis, de mémoire, depuis Londres, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a une catégorie debout déficients mentaux et une catégorie debout femmes et debout garçons déficients mentaux.
Énormément de catégories et du coup, une compétition qui va s'étaler sur quasiment tous les jeux. Christophe, est-ce qu'en équipe de France paralympique, tout le monde dit désormais le para-ping? Je fais référence évidemment à la formule des frères Lebrun. On a longtemps dit tennis de table et les frangins Lebrun, ils aiment bien dire, nous on dit le ping, et leur entraîneur dit, chez nous tout le monde dit le ping. Est-ce qu'on dit aussi le para-ping?
Ouais, alors nous on dit le ping aussi, comme les frères Lebrun. C'est vraiment le tennis de table, c'est ceux qui veulent dire que c'est un petit peu noble, mais en plus ça va plus vite. Donc nous on dit ping, ping-pong. C'est vraiment l'habitude depuis toujours. Après, le para-ping, c'est bien parce que ça permet aux gens d'identifier que ce sont les athlètes paralympiques. Et je trouve que cette formule, depuis qu'elle a été instaurée, parce que pendant longtemps, on a eu beaucoup de gens qui disaient jeux para-olympiques, jeux olympiques. Ils ne savaient jamais où mettre le para. Donc là, au moins, c'est paralympique. Je trouve que c'est assez bien cette évolution et ça permet à tout le monde de bien comprendre, quoi.
Et on va se régaler, on salive d'avance, de suivre donc c'est nos Françaises, nos Français en para-ping. Christophe, ce sera à l'Arena Paris Sud, comme au JO. J'imagine que l'ambiance à laquelle tu as, comme nous, assisté pendant les Jeux Olympiques doit motiver, surmotiver nos parapongistes.
Ouais, ils ont tous la patate, hein, parce qu'ils ont tous envie de commencer. En plus, ils ont vu les images des frères Lebrun, donc c'est vrai que ça a donné une envie folle de compétiter. Ça m'a fait beaucoup penser à l'ambiance de Londres. Londres aussi, le tennis de table était un peu sur le hall des expos de Versailles, donc ces grands halls qu'on arrive à moduler. Et les Anglais étaient vraiment à fond derrière leurs joueurs, donc. Je pense que ça va avoir une incidence importante pour peut-être changer les couleurs de médaille. Alors, des fois, de passer de demi-finale, et parce que la particularité, c'est qu'on ne joue pas le bronze chez nous. Donc, en fait, quand vous gagnez le quart de finale, vous êtes médaillé. Mais médaillé, c'est bien, mais d'aller en finale, ça permet de jouer l'or. Donc, peut-être que le public permettra de ce petit supplément d'âme pour pouvoir aller chercher un peu plus de finale.
Eh bien, on a hâte, en tout cas, de vivre ça avec toi. Je le rappelle, Christophe Durand, qui a rejoint notre Dream Team en tant que consultant RMC. Tu commenteras donc ces épreuves de para-ping, donc, en compagnie de Léna Marjac sur notre antenne.
C'est ça.
Merci.
J'ai hâte que ça commence.
Merci beaucoup d'avoir consacré un petit peu de temps à nos auditrices et à nos auditeurs. Et on a hâte que ça démarre. On a hâte de te retrouver sur l'antenne de RMC. À bientôt.
Super. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.